Radio Cultura .eus.
Nous vous proposons de découvrir la seconde partie du reportage au sujet de Marie Bourquin. Architecte, aventurière, couturière et comédienne, elle a décidé de réunir ses différentes casquettes dans une même et seule activité en créant l'atelier A2C2. Dans cette deuxième partie, Marie nous emmène en voyage avec sa casquette d'aventurière.
Comme dirait Monsieur Bouvier, on fait pas le voyage, c'est le voyage qui nous fait. Je trouve que c'est vraiment ça, quoi. Et on a besoin parfois de partir, de prendre l'air. Et on revient, on est une autre femme, un autre homme. On voit des choses différentes et ça nourrit énormément de créativité, en tout cas pour moi. Bonjour, je m'appelle Marie Bourquin, je suis originaire de Bordeaux mais je vis à Louhoussoa. Je suis architecte, aventurière, comédienne et couturière, que je résume par le thème de slasheuse qui est d'avoir plusieurs identités professionnelles en parallèle. Je suis aventurière, je fais des études de terrain sur les routes de la soie, de la Turquie à la Chine. Une opportunité s'est proposée à moi avec mon professeur d'architecture, aujourd'hui à la retraite, Jean-Paul Loube, architecte anthropologue, qui a fait ses études de terrain quand il était professeur dans les années 80. Études de terrain, c'est vraiment d'aller sur ces territoires méconnus avec nos outils d'architectes, de sociologues, d'anthropologues, aussi de grandes gourmandes puisque je ramène beaucoup de recettes culinaires de mes voyages. Le but étant de comprendre ces territoires, de comprendre ces usagers, comprendre comment ils fonctionnent sur le vivre ensemble avec toutes les problématiques qu'on a sur nos territoires, nous ici en France, hein, en Europe, mais de voir comment ils se débrouillent là-bas, comment ça se passe, le rapport au patrimoine, à leur histoire, au rapport de la place de la femme, par exemple, tout ça. C'est vraiment un peu pêle-mêle de rencontres, de visites qu'on fait. C'est pas organisé comme un programme défini, c'est vraiment on a le sac à dos et puis on y va. On voit ce qui se passe, on échange beaucoup avec la population, dans les villes, mais aussi beaucoup dans l'espace rural. On a besoin d'aller à la campagne, d'aller à la nature, de voir vraiment ce qui se passe hors de ces grandes villes hyper conventionnelles, normalisées. C'est à la campagne, je trouve, qu'on sent plus comment évoluent les valeurs humaines, l'hospitalité, la bienveillance, de voir l'autre, l'étranger. Et effectivement, le rapport de la femme aussi est important dans ces territoires et de voir que, dans certaines contrées, pour une femme voyager seule, c'est mal perçu ou du moins c'est regardé d'un œil un peu bizarre, étrange. Du coup, mon professeur se fait passer pour mon papa parce que sinon, on peut pas créer le dialogue, on peut pas parler d'égal à égal, on est sur d'autres catégories. Et c'est vrai que pour eux, c'est assez curieux de se dire, tiens, une grande blonde aux yeux bleus, alors que là-bas, ils sont tous bruns aux yeux foncés. Enfin, c'est vrai que de suite, on détonne, entre guillemets, mais on sent beaucoup de curiosité bienveillante de dire, ouais, mais pourquoi tu es là? Pourquoi nous? C'est formidable les échanges qu'on peut avoir avec la population. Tout ce qu'on perçoit dans le voyage, on l'écrit sur un carnet qui est une trace. On essaye de prendre un maximum de photos, de vidéos, pour ne rien perdre de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a emmagasiné, les odeurs, les bruits. Essayer vraiment de tout mémoriser, même si bien sûr on peut pas, je suis pas une machine, mais de s'imprégner de tout ça. Et il y a plein de choses qui changent après dans la vie au quotidien quand on rentre dans notre pays, enfin dans notre chez nous. Ne serait-ce que, le rapport à l'eau. J'ai passé 11 jours en road trip en Mongolie, nomade de yourte en yourte, où effectivement il n'y a pas d'eau courante, et juste d'un filet d'eau pour se brosser les dents, mais on est déjà au paradis, quoi, en fait. On a un rapport à l'essentiel qui est complètement différent, et qui fait que quand on rentre, on a de l'eau chaude, on a un confort, entre guillemets, qu'on ne se rend même pas compte du confort qu'on a, nous fait changer un petit peu de perception, de relativiser aussi la chance qu'on a, et de prendre conscience, oui, qu'ailleurs c'est différent, quoi. Et je sais pas, c'est comme dirait Monsieur Bouvier, on fait pas le voyage, c'est le voyage qui nous fait. Je trouve que c'est vraiment ça, quoi. Et on a besoin parfois de partir, de prendre l'air, et on revient, on est une autre femme, un autre homme. On voit des choses différentes et ça nourrit énormément de créativité, en tout cas pour moi. Et puis l'envie de partager, quoi. Surtout l'envie de partager, de dire voilà ce qu'il y a là-bas, quoi. Sur ces territoires où effectivement on vous dit pas tiens tu pars en vacances au Kirghizistan, au Xinjiang, en Mongolie. Oui, c'est pas des vacances, mais ça fait autant de bien en tout cas. On essaye en tout cas de partir, le plus souvent qu'on peut. La difficulté, c'est que c'est des projets sur nos fonds propres, qu'avec le Covid, ça a été très compliqué. Il y a eu 2 voyages qui se sont annulés, un en Israël et un au Kirghizistan. Il y avait une hypothèse de partir au Kazakhstan. Malheureusement, les dates ne concordaient pas entre moi et mon collègue. Mais oui, l'objectif étant que ça se propage, ça se prolonge pour continuer à enrichir ces carnets de voyage et trouver aussi un support pour l'échanger, le partager. Peut-être sous forme d'un livre écrit à 4 mains, peut-être sous forme de conférences. C'est sûr que j'intègre ce que j'apprends dans ces voyages sur mes maquettes d'ateliers d'architecture pour les enfants, où parfois on fait une yourte, je leur montre voilà qu'est-ce qui se passe à la capitale de la Mongolie, Oulan-Bator, de travailler sur d'autres supports urbains pour aussi les faire voyager. C'est aussi ma manière à moi de partager ce voyage. Un élément marquant de ces voyages a été vraiment le rapport au nomadisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas une architecture qui est figée, implantée, qui vient faire une trace, une empreinte, parfois une cicatrice sur le territoire, sur le paysage. Le fait de vivre dans des yourtes, donc de se déplacer, a un rapport à l'architecture qui est vraiment qu'on connaît peu en France, enfin moi que je connaissais peu, où effectivement, une fois qu'on est parti, outre le fait que éventuellement la pelouse soit un petit peu, on va dire, mâchée, enfin pliée sur le sol, il n'y a aucune trace de notre passage. Et ça repose beaucoup de questions sur l'empreinte de l'homme, sur cette planète qui est abîmée, qui pose beaucoup de questions, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laisse aux futures générations? Et ça, ça a été très marquant, de se dire, voilà, avec peu, on se sent bien. Se dire qu'avec des températures à moins 30, moins 40, dans une yourte, il fait pas froid, il fait même trop chaud, parce qu'il y a le poêle au milieu de la yourte qui est chargé à fond, soit de bois, ou généralement ce sont les bouses de chèvres, du pâturage, enfin des animaux, de l'élevage, donc en plus qui dégage une odeur assez singulière, et c'est surtout qu'il fait super chaud, quoi. Donc effectivement, je m'attendais pas à dormir avec 30, 32 degrés, on se dit, mais en fait, c'est pas possible, il faut que je sorte dehors. Donc, vous sortez dehors prendre l'air 2 secondes parce que vous ne tenez pas à moins 10, moins 15. Et encore, on n'était pas sur des températures extrêmes. Mais d'avoir ce rapport-là, je pense qu'il faut vraiment vivre dans les conditions pour traiter un espace correctement. De même que dans les projets où on peut expérimenter ce que fait l'usager, de voir n'importe quelle profession, par exemple une bibliothécaire, comment elle gère son stock de livres, etc., se mettre à la place de l'usager. Pour moi, c'est vraiment ça, mon cœur de métier d'architecte, mon point de vue, ma spécificité, je sais pas. Pour moi, ça me semble évident que, quel que soit le projet que je conçois, je me mette à la place de l'usager. Mais c'est-à-dire que, soit en l'interviewant, soit en me mettant physiquement à sa place. C'est vraiment de l'expérimentation du quotidien où je me rends compte, waouh, tiens, j'ai une amie qui est en fauteuil, je l'ai poussée jusqu'à la mer, j'ai vu la difficulté. Ok, la prochaine fois, si j'ai la possibilité de créer un espace avec ces problématiques-là, je ferai hyper attention parce que ça y est, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Je pense que c'est ça aussi le rôle de l'architecte, c'est de se mettre à la place, d'être le comédien de ces personnages, de ces différents utilisateurs, pour répondre à leurs besoins qui sont propres, qui sont spécifiques à leurs difficultés ou à leur fonctionnement. À Alors ici au Pays Basque, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon allez, quand même t'as un diplôme d'architecte, tu vas aller frapper aux différentes portes des architectes, des maîtres d'œuvre pour proposer tes services, avec tes valeurs humaines et bien trempées, effectivement, j'y tiens. J'avoue m'être fait recevoir un petit peu sur les roses, on va être honnête, mais je pense tout simplement parce que c'était pas ma place. Et c'est grâce à eux, je leur en remercie aujourd'hui, même si c'était difficile sur le moment, de me dire en fait c'est grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit mais en fait monte ta boîte ou oui c'est sympa t'as un bon discours mais non merci, de me dire ok j'ai accepté de dire j'allais arrêter l'architecture, waouh, grande déception de casser ce rêve de l'enfant intérieur que j'ai été, de rêver d'être architecte et 9 années d'études, je vous raconte pas la tête de mes parents quand je leur ai annoncé, mais je me suis laissée 6 mois pour écrire le spectacle. Et c'est grâce au spectacle, en me posant la question comment je peux pratiquer mon métier autrement, qu'est apparue cette idée, fais ce que tu dis dans ton spectacle, à savoir, ose être toi. Ok, alors qui je suis? Eh bien en fait, oui, je suis architecte, comédienne, aventurière et couturière. Et si c'est ça, ben assume-le. Petit à petit, le projet s'est construit grâce aussi à d'autres personnes qui sont venues me voir en disant « Ah bah au fait, on a une association, on a un espace qui est mutualisé avec pas mal de personnes, corps de métiers différents, on aimerait se l'approprier avec du mobilier modulable, on a des palettes, qu'est-ce que t'en penses ?»« Ah bah oui, très bien, moi je peux vous aider, on va concevoir un mobilier adapté à votre besoin. » Et petit à petit, a commencé à faire un premier atelier qui n'était pas du tout prévu, j'étais complètement bénévole, j'ai donné un coup de main comme ça. Et de me dire « Mais quand même, ça s'est super bien passé. » Je me suis sentie à ma place, j'ai utilisé mes outils d'architecte, j'ai utilisé mes outils de couturière pour faire que les coussins soient adaptés sur les palettes, j'ai utilisé mes outils de comédienne pour me mettre à la place de travailler la scène, entre guillemets, de cet espace. Plein d'indices comme ça de personnes qui sont venues me chercher sur les propositions d'ateliers que je propose aujourd'hui, qui m'ont donné confiance en disant voilà, si on vient me chercher pour ça, alors que ces personnes-là, je les connais pas, c'est quand même que j'ai de la valeur, j'ai un intérêt, je me sens utile, donc vas-y, fonce. Et c'est comme ça que le projet Atelier A2C2 est né, et de vouloir de plus en plus se propager au sein du Pays Basque, d'être nomade, donc d'avoir aussi ce rapport que j'ai découvert dans le voyage et de l'intégrer dans mon choix professionnel, de dire voilà, je mets dans la voiture les caisses de plastique où je mets toutes mes affaires dont j'ai besoin, en fonction, soit c'est les caisses couturières, soit c'est les caisses architectes ou comédiennes, et je viens vous voir, collectivité, médiathèque, particulier, au fin fond du Pays Basque, ou au contraire sur la côte, en fonction de vos besoins. L'entreprise a vu le jour officiellement donc le 1er avril 2022 et les premières collaborations se mettent en place de manière pérenne. Par exemple, un stage d'adolescent pour faire de l'architecture à la ville d'Anglette qui est renouvelé à chaque vacances scolaires. Des partenariats avec le magasin Aux Arts à Bayonne, également avec Petit Baby Shop à Metsando, où je fais les ateliers d'architecture pour les enfants, 6-14, des propositions d'ateliers théâtre sur différentes communes, dont celle de Oloron. J'ai joué mon spectacle à Barcus, mais également à Anglette et bientôt à Biarritz, au Social Bar. Donc le chemin se crée petit à petit, de bouche à oreille. Les gens sont assez enthousiasmes, vraiment, sur... C'est pas courant, mais en fait, on comprend. On comprend la logique, on comprend le sens, on voit les valeurs humaines que je souhaite partager et propager. Donc, effectivement, j'ai bon espoir que l'aventure puisse continuer quelques temps pour aider tout le monde à ce qu'ils se sentent bien dans ces espaces de vie, chez eux, sur eux, en eux. La langue basque, la difficulté, ça va être le temps. Effectivement, je reconnais que je suis toute seule pour tout faire. Je reconnais que j'y passe mes journées, voire mes nuits. Donc effectivement, malheureusement, pour le moment, la priorité, c'est que le projet marche, devienne pérenne et que je puisse commencer à en vivre. Mais c'est pour projet, effectivement. Je pense qu'on va rigoler parce que, étant dyslexique, la langue basque est pour moi un beau challenge, comme toute langue étrangère. Je reconnais que je suis pas très douée en langue. J'ai besoin de la méthode mot par mot plutôt que globale. Mais je pense que ça va être un beau challenge d'apprendre le basque. Et en tout cas, il y a quelques mots qui arrivent dans mon quotidien. Le cachou passe tout le temps. Je ne dis même plus attention. Donc, ça fait rire certaines personnes de ma famille qui ne sont pas du Pays basque, qui me disent « Mais qu'est-ce que tu dis ?» Mais au contraire, je suis très fière de cette langue. Et je pense que ça fait partie de mes valeurs de protéger et partager le patrimoine. Le Pays basque est magnifique, mais il faut le protéger. Ah, si j'avais une baguette magique, je souhaiterais que toutes mes semaines soient agrémentées de toutes ces casquettes, de passer du lundi à la casquette comédienne, du mercredi à la casquette architecte, et le vendredi ou le week-end à la casquette couturière, de continuer les voyages, de continuer à ramener dans mes valises tous ces souvenirs et à les propager, et à faire en sorte de faire que tous ensemble on puisse bien vivre.
Radio Cultura. Punto Eus.